Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Véronique Garnier-Bovier.
Bonjour.
Merci de rester fidèle à cette série jusqu'à demain dans Des clés pour vivre. Abus sexuel au sein de l'Église, c'est l'abus d'un prêtre que vous avez subi. Vous étiez alors âgé de 13 ans et demi. Un prêtre ami de la famille, on n'est pas rentré dans les détails, c'était un prêtre proche de la famille. Très oui. Proche.
Oui, c'est ça. Il venait souvent à la maison. Souvent après la messe, le dimanche, il prenait le repas. Il venait souvent une autre fois dans la semaine. Voilà.
Est-ce qu'on peut vous demander combien de temps ces abus ont duré ?
En fait, je pense que ça a duré environ 2 ans, 2 années. Donc, 1 ou 2 fois par semaine, j'étais abusée. Donc, c'est répété et c'est... Ça marque beaucoup.
On parle à quel moment à ses parents ? Parce que vous avez parlé à vos parents.
Oui, j'ai essayé de dire à mes parents ce qui s'était passé, je sais pas, vers 16-17 ans peut-être. Mais en fait, ça s'est pas bien passé et mes parents m'ont pas cru, m'ont pas aidé ou m'ont pas su quoi faire, je ne sais pas exactement. Mais ils ont continué à recevoir le prêtre comme si de rien n'était. Et alors pour moi, c'était encore pire que si j'avais rien dit.
Ils ne pouvaient peut-être pas entendre ? Une forme de déni pour eux ?
Sans doute, ils ne pouvaient pas, oui.
Alors, entre nous, pour les auditeurs, pour nos frères prêtres et évêques qui vous suivent peut-être dans cette série d'entretiens des clés pour vivre, l'Eucharistie, vous y tenez fort, c'est votre nourriture journalière. Hein. Et merci Pascal Garnier, puisque vous accompagnez votre épouse aujourd'hui, vous êtes dans les studios. Cette Eucharistie, vous y tenez, ce corps du Christ, il est précieux pour vous ? Il semblerait que ça soit votre nourriture journalière.
En effet, depuis quelques années, j'essaye d'aller à la messe presque chaque jour. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que pour moi, c'est souvent une grande souffrance. Mais en même temps, c'est comme vital. Ça m'aide à vivre, je veux dire. Alors, je ne suis pas maso, hein. Bien sûr, non. Mais d'ailleurs, assez souvent, quand je souffre trop à l'Eucharistie, je me dis je ne viendrai plus à la messe. Et le lendemain matin, je suis quand même de nouveau à la messe. C'est peut-être étonnant, mais je crois que la messe, pour moi, c'est une rencontre avec le Christ souffrant et ce Christ brisé qui me rejoint là où je suis brisée. Lui, je crois que je comprends que ça me répare petit à petit, ça me restaure. Une fois, un prêtre m'avait dit que c'était peut-être l'adoration eucharistique qui me permettrait d'être revirginisée.
Oh, quel terme,
oui. M'avait-il dit, et quand j'étais écrit par lettre, je me suis dit, je comprends rien à ce qu'il me raconte, celui-là. Et peut-être au fond, petit à petit, quelque chose de cet ordre se passe au travers des Eucharisties. Alors, même si c'est beaucoup de souffrance, j'y trouve que quelque chose qui me répare sans doute et qui me donne la force de chaque jour.
C'est le Christ de la Passion.
Des
Eucharisties.
Je crois que c'est. Je rencontre le Christ crucifié et aussi ressuscité. Comment dire ? J'aime beaucoup parler de Jésus, le crucifié, trait d'union, ressuscité. Et en effet, vous me montrez mon livre. J'ai voulu signer ce livre Véronique Garnier-Bovier. C'est-à-dire mon nom de femme aujourd'hui, tiré mon nom de jeune fille, un peu comme si je retrouve l'enfant que j'ai été, mais aussi un peu signifier qu'en moi, il y a crucifié, tiré, ressuscité. Peut-être c'est ce que je retrouve à chaque Eucharistie.
On y va doucement, mais sûrement. Comment vous vous positionnez par rapport au pardon ?
Voilà. Oui, je souris. Alors, le pardon, je vous remercie de pas, d'avoir attendu un certain temps pour me poser cette question. Parce
c'est le
que,
quatrième rendez-vous hein, c'est de ça. La semaine. Oui.
Parfois,
nous nous sommes apprivoisés.
Oui, hein. Parfois, les personnes vont directement au sujet du pardon, nous demandant « Mais alors, est-ce que vous arrivez à pardonner ?» Voilà, c'est la question très délicate et qu'il ne faut surtout pas poser en premier. Alors, je vous remercie d'avoir attendu un peu. En effet, le pardon, c'est comme un, pour moi, c'est comme un long chemin que j'ai emprunté déjà depuis plusieurs années. Grâce à la demande de pardon de l'Église, je dis ça tout de suite parce que je crois qu'il y a un préalable pour entrer sur un chemin de pardon. C'est que quand même, quelqu'un nous demande pardon. Alors... pour ce qui me concerne, le prêtre qui a abusé de moi est décédé depuis longtemps, donc il ne m'aura jamais demandé pardon. Mais en 2010, quand j'ai écrit à l'évêque de Nancy, où ça s'était passé, pour lui dire, voilà, je voudrais faire la vérité avec l'Église, alors je vous dis, voilà, en 1975, avec telle personne, il s'est passé telle chose. J'attends que l'Église me demande pardon, à la fois pour les abus et à la fois pour le silence qui était demandé à ceux qui savaient. J'ai eu la chance que beaucoup n'ont pas eu, c'est que l'évêque de Nancy m'ait répondu et m'ait demandé pardon un peu au nom de l'Église. Bon, et cette demande de pardon par l'intermédiaire d'un évêque, donc de l'Église, m'a permis d'entrer sur un chemin. Je ne sais pas si on peut entrer sur ce chemin de pardon quand jamais personne ne nous demande pardon.
Et en l'occurrence, c'était un évêque.
Oui, alors le fait que c'est un évêque, c'est important.
C'est un ministre du Seigneur, de cette hiérarchie de l'Église, ou dans cette hiérarchie de l'Église, n'ayons pas peur quand même de faire la vérité aussi, de rappeler qu'il y a eu ce grand silence collectif autour de tous ces abus.
Oui, bien sûr. Alors, en effet, je voulais m'adresser à l'Église, et comment faire pour s'adresser à une institution sans passer par les responsables. Bien sûr, on cherche à s'adresser à un responsable et les personnes qui ont été abusées souvent pensent à s'adresser à l'évêque du lieu où ça s'est passé. C'est ce qui nous vient naturellement. Non pas pour qu'ils nous rendent des comptes de quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans et dont ils ne sont pas responsables exactement eux-mêmes aujourd'hui, mais quand même, devenant évêque d'un diocèse, malheureusement, ils héritent de ce qui s'est passé dans ce diocèse. Et du coup, ce qui nous habite, c'est de nous adresser aujourd'hui aux responsables du diocèse où ça s'est passé hier. Et quand on peut trouver, par chance, quelqu'un qui accepte ce dialogue, c'est vraiment très important.
Donc une oreille et un cœur qui a quelque peu le désir de faire vérité aussi,
oui,
dans l'écoute.
Oui, pour moi, faire la vérité, c'était vital. C'est-à-dire question de vie ou de mort. Je dis vital.
Donc vital, oui.
Oui, parce que entrer dans cette vérité, c'est commencer peut-être à pouvoir être délivré du passé. Et maintenant, je pense... cette vérité, non seulement me délivre, moi, de ce que j'ai vécu, du passé, mais peut-être délivre aussi le diocèse où ça s'est passé. Parce que les mensonges, les non-dits, les dissimulations emprisonnent, en fait. Donc, finalement, ce dialogue, en vérité, libère, en effet, moi-même, des conséquences du passé, mais aussi peut-être le diocèse. Et ce dialogue donne la vie, contrairement au silence, qui est un silence de mort.
On s'arrête pour aujourd'hui. Ce silence de mort va se transformer en silence de vie pour cette série que nous aurons demain, puisque nous enregistrons cette série d'entretiens des clés pour vivre dans un lieu bien particulier. C'est ce lieu et ce grand sanctuaire de Lourdes. Et 40 ans après, vous y revenez auprès de Marie. On en parle demain ?
Oui.
On respire.
Merci, à demain.
Et je vous donne un peu de répit. Une bonne nuit aussi, on se retrouve à la même heure. À demain, Véronique Beauvier-Garnier.
Merci
beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs qu'on peut aussi se plonger dans ce livre témoignage paru aux éditions Artege. À demain.